Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de votre fidélité à la Radio de la Paix. Vous suivez Economia et nous vous disons merci de préférer ce programme d'information économique qui s'intéresse aujourd'hui à l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. On en parle avec un expert géographe qui s'intéresse aux questions de cacao. Il s'agit du docteur Nguessan Guillaume, enseignant à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Il répondra à nos questions dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion de l'économie. Avant cela, le lexique économique pour des informations sur cette initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et vers la fin de ce numéro d'Economia, la rubrique itinéraire avec un opérateur économique que nous recevrons. Voilà pour le sommaire et bienvenue à tous.
Le lexique économique. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, ICCIG.
L'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, créée en 2018, est une organisation intergouvernementale des pays producteurs de cacao, fondée par la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'organisation vise à influencer l'ensemble des prix mondiaux du cacao et le marché du chocolat. Son but est d'accroître de manière durable les revenus des producteurs de cacao dans les pays membres. Pour la petite histoire, c'est le 26 mars 2018 que les premiers producteurs mondiaux du cacao avec 65% de la production mondiale signait la déclaration d'Abidjan promettant de travailler ensemble pour augmenter les revenus des producteurs de cacao, créer aussi une stratégie pour une culture durable du cacao et mener des recherches scientifiques sur la production du cacao et la maladie du Schwalenschot. Un peu de temps après, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est créée avec une charte alignée sur les deux accords précédents. Comme élément majeur à retenir donc de cette initiative en 2019, que cette initiative a commencé à facturer aux acheteurs, donc les usiniers de cacao, une prime de $400 américains, soit plus de 200 000 francs CFA par tonne. Dans le cadre donc du DRD, le différentiel de revenus décent. Et comme perspective, cette initiative qui compte actuellement deux membres, à savoir la Côte d'Ivoire et le Ghana, est ouverte à tous les pays producteurs de cacao en Afrique. Et c'est dans ce sens qu'en 2022, le Cameroun et le Nigeria ont exprimé leur intérêt à rejoindre les deux autres producteurs. Ensemble, ces quatre pays représenteraient 75% de l'approvisionnement mondial en cacao.
Regard sur la gestion économique nationale.
Docteur Nguessan Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Cette initiative de collaboration entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui est l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, qui existe depuis quelques années. Les deux grands producteurs du cacao ont décidé de se mettre ensemble pour faire avancer la cause des producteurs du cacao. Alors aujourd'hui, en tant que géographe, en tant que spécialiste de ces questions, quel bilan on peut dresser de cette collaboration et pourquoi, selon vous, ces deux pays ont été obligés de se mettre ensemble?
Alors, dans un premier temps, il faut dire que ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, représentent environ 65% de la production mondiale du cacao. Alors, l'union faisant la force, il fallait d'abord que ces deux pays s'associent, se mettent ensemble pour régler les différends internes avant donc de se projeter sur le marché international afin donc de proposer, on va dire, un mieux-être aux producteurs de cacao. J'entends par mieux-être l'amélioration donc des prix d'achat du cacao sur le marché mondial.
Ces pays, sur la base donc des réalités de commercialisation, ont décidé donc de se mettre ensemble. Ça, c'était pour l'historique. Mais aujourd'hui, si vous deviez apprécier un peu déjà les résultats obtenus, que pourriez-vous dire?
Alors, déjà, au niveau des résultats, ce qu'il faut saluer, si vous avez bien observé ces derniers temps, on parle de la fuite du cacao ivoirien vers les autres pays et non plus vers le Ghana. Donc, c'est vers la Guinée, c'est vers le Burkina Faso, etc. Mais l'axe Côte d'Ivoire-Ghana, le problème a été réglé. Je peux considérer déjà que c'est un résultat positif de cette initiative entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en matière de cacao, qui permet donc à la Côte d'Ivoire, premièrement, aux producteurs de ces deux pays-là, de pouvoir vendre leur cacao sur les territoire et donc d'éviter cette question de fuite. La deuxième chose, c'est que l'initiative a permis aux deux pays, depuis quelques années, comme vous l'avez dit, d'enregistrer une hausse du coût du cacao sur le marché international. Vous voyez, ces derniers temps, il y a une certaine embellie du prix du cacao sur le marché international. On attend que cela réjaillisse sur les producteurs qui sont les principaux acteurs de la filière. Donc voilà en termes de résultats ce qu'on peut déjà noter. La fin donc du trafic qui se faisait entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est-à-dire que la fuite du cacao, et deuxième résultat, la hausse donc du prix du cacao sur le marché international. Il y a certainement bien d'autres résultats qui résultent donc de cette union.
Alors, sur la base de ces deux résultats que vous soulignez, on peut dire qu'en termes stratégiques, hein, les deux pays producteurs ont décidé concomitamment d'annoncer les prix à proposer aux paysans. C'est vrai qu'il y a quelques différences, hein, chaque année. Il y a aussi, hein, comme élément qu'on peut souligner, le DRD, comme on l'appelle communément, le différentiel de revenus décent, qui permet donc de payer 400 dollars la tonne, environ 250 000 un peu plus. Et tout cela sont à mettre à l'actif de cette initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, c'est cela?
Bien sûr, bien sûr. Vous savez que lorsque on décide de s'unir pour une même cause, et ici la cause c'est d'améliorer donc la situation des producteurs, c'est d'améliorer les caisses des deux États. Et donc depuis quelques années, la Côte d'Ivoire et le Ghana fixent ensemble le prix du cacao. Donc c'est de concert que les prix sont donnés de sorte à éviter cette fuite du cacao là entre les deux pays et de pouvoir aussi, comme je l'ai dit tantôt, rehausser un peu le prix sur le marché international. Alors donc, c'est dans cette logique fixer de combien encore un prix qui puisse garantir la stabilité entre les deux pays, fixer un prix qui puisse permettre aux deux pays de suivre de commun accord donc l'évolution de l'économie cacaoïère au niveau mondial. Cette initiative a été taxée d'ailleurs par certains comme étant l'OPEP du cacao ou cherche à certainement intégrer les autres pays producteurs africains, notamment je pense au Cameroun et au Nigeria, et qui porteraient encore, on va dire, le poids donc de la commercialisation mondiale du cacao à un peu plus de 70% de part de marché. Voyez-vous, ce serait entre guillemets, comme ils le disent, un cartel aussi puissant pour la filière cacao.
Alors ça, c'est déjà pour la stratégie, mais de plus en plus, hein, on encourage les pays producteurs à aller vers la transformation. Pour vous, après ce succès obtenu avec cette initiative, quels pourraient être les chemins que ces producteurs pourraient emprunter?
En parlant de transformation, il faut dire que les défis sont encore énormes. La Côte d'Ivoire essaie de transformer une grande partie de son cacao déjà. L'objectif est à terme de pouvoir vendre aux clients plutôt de la matière transformée de cacao et non plus de la fève brute. Cela reviendrait donc à mettre en place des initiatives locales, déjà même au niveau des producteurs, à former ces producteurs-là pour que tout soit inscrit dans cette logique donc de transformation. Il peut avoir des petites unités locales qui vont faire une première transformation avant même donc de passer aux grandes chaînes de transformation que sont les entreprises que je ne vais pas citer.
Alors, il y a aussi ce défi à relever. Hein. L'Union européenne a décidé donc de prendre des mesures pour permettre l'accès de certaines productions sur son marché, des productions qui ne sont pas à la base de déforestation. C'est un défi à relever par ces deux pays. Pour vous, aujourd'hui, quelle pourrait être l'approche pour ne pas que aussi avec cette mesure de l'Union européenne, ces deux pays grands producteurs mondiaux perdent?
Alors, il faut dire que la mesure de l'Union européenne est plus que contraignante, puisqu'on est tous sans ignorer que le cacao est consommé en majorité par l'Europe. Et nous, pays africains, ne sommes pas grands consommateurs du cacao. Je crois que des sensibilisations sont faites pour que cela soit. Mais en l'état actuel des choses, le consommateur reste l'Europe. Alors, ce sont les mesures donc du consommateur qui s'imposent au producteur. Vous voyez, nous sommes dans un système, on va dire, de commerce où celui qui produit n'est pas libre donc de définir toute la stratégie. Alors, l'Union européenne impose des règles qui ne sont pas mauvaises en soi, puisqu'il s'agit donc des questions de déforestation, donc de menaces sur notre environnement, de menaces même sur la production du cacao. Alors, pour la Côte d'Ivoire et pour le Ghana, pour s'inscrire toujours dans cette initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, l'optique est donc de respecter les principes édictés par l'Europe, non sans souvent des reproches. Mais déjà, ce qu'il faut noter, c'est que ces deux pays ont décidé de s'inscrire dans cette logique donc de cacao durable. Et en quoi consiste, par exemple, la politique ivoirienne de cacao durable? C'est dans un premier temps de s'inscrire dans une cacaoculture qui s'intègre à l'agroforesterie. C'est-à-dire aujourd'hui, la sensibilisation est faite aux paysans de pouvoir développer des plantations de cacao associées aux arbres naturels ou bien même aux arbres qu'on pourrait planter, de sorte à pouvoir conserver notre environnement, réduire donc les risques de destruction massive. Parce que ce qu'il ne faut pas ignorer aussi, c'est que la culture du cacao en Côte d'Ivoire a profondément dégradé notre couvert forestier. Et aujourd'hui, même les aires protégées sont menacées par les cacaoculteurs. Faut-il rester sans rien faire? Nous pensons que l'initiative de l'Union européenne, les règles de l'Union européenne sont à prendre en compte si nous voulons continuer à développer le cacao et si nous voulons fournir toujours le cacao au marché mondial. Parce que avec nos systèmes d'exploitation traditionnels qui ont fini par dégrader la forêt, le cacao s'est déplacé continuellement. Vous allez prendre depuis la zone est de la Côte d'Ivoire, il y a une forte réduction des productions liées donc aux conditions de développement qui ont complètement changé. Le cacao s'est déplacé jusqu'au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la zone de Daloa, où aujourd'hui on observe une très faible production liée au même phénomène, c'est-à-dire qu'à un système de culture qui est fortement dévastatrice. Aujourd'hui, le cacao est dans l'ouest et le sud-ouest du pays. On craint que cette spéculation ne puisse sortir de la Côte d'Ivoire. Donc, si les systèmes de culture mettent en danger la forêt ivoirienne, mettre en danger les conditions donc de durabilité du cacao, alors il fallait prendre des décisions pour pouvoir régler le problème.
Alors, pour terminer, en résumé, que retenir de cette initiative et quelles sont les perspectives possibles?
Alors, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est une bonne initiative. Toute union est à saluer. C'est ce qu'on demande aux Africains sur le marché international. Dans une forme de globalisation, de mondialisation, on ne peut plus vivre seul. Donc, c'est une initiative à saluer. On a vu que cette initiative a commencé à produire des résultats. Il faut continuer dans ce sens. Il faut également continuer peut-être à inviter les autres pays producteurs du cacao, qu'ils soient africains, qu'ils soient d'ailleurs, à intégrer aussi cette initiative-là en vue de gagner ensemble des véritables combats, comme par exemple la hausse du coût, comme aussi les échanges de connaissances, le partage d'expériences en matière donc de cacao culture durable. Alors donc, c'est déjà quelque chose à saluer. Et il faut seulement que les pays membres puissent se mettre d'accord sur ce qui peut faire leur différence afin donc de voir cette initiative-là faire gagner beaucoup de lauriers aux pays membres et particulièrement aux producteurs de cacao.
Docteur Nguessan Guillaume, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes?
Je suis géographe, je m'intéresse aux questions du monde rural et donc tout ce qui est agriculture et particulièrement au domaine du cacao. Et je suis enseignant chercheur maître de conférence à l'université Jean-Louis Nguédé de Daloa.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Toujours à la découverte des personnes pour nous qui sont des modèles. Et ce monsieur que nous rencontrons est un modèle. Il est connu sous des initiales ici qu'on appelle Kakaji. Kakaji, c'est qui? Nous allons le découvrir à mes auditeurs. Kakaji, bonjour.
Bonjour.
Alors, Kakaji, c'est qui?
Kakaji, mon nom à l'état civil, c'est Kwasi Kobina. Mais l'entreprise que j'ai choisie, j'ai pris le nom de mon papa. Mon papa s'appelait Kwasi Kra Joseph. Et c'est à travers ça, j'ai pris Kakaji.
Alors, si on vous demandait de vous présenter, c'est quoi votre formation?
Bon, dans le milieu des affaires, je suis un homme d'affaires. Je touche à, en tout cas, beaucoup de branches pour que je puisse m'en sortir.
Est-ce que vous êtes allé à l'école?
Oui.
Vous êtes arrêté en quelle classe?
En cinquième.
Cinquième. Alors, après la cinquième, quel a été votre parcours?
Bon, étant élève, j'ai perdu mon papa en 1982. Donc après la mort de mon papa, c'était difficile de continuer les écoles. Donc ça fait que je me suis mis dans la nature en me débrouillant. Et c'est dans ça que je me suis retrouvé à Zopé. J'ai fait 10 ans là-bas. Après 10 ans, j'ai dit non, je dois venir chez moi au village. Au village, c'est la sous-préfecture de Koumfa. Aussi, dans mon village, même c'est Côte d'Ivoire. Et je suis venu, bon, faire un magasin d'accessoires des portables et vendre les cellulaires, téléphones aussi.
Alors, justement, vous avez fait une dizaine d'années à Zopé. Vos fils de Kurwanda, Agni, Bona, vous vous retrouvez chez les Atiers, à quelle occasion? Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas?
Bon, c'était une manière d'aller me chercher et puis me retrouver. Mais arrivé là-bas, après 4 ans, 5 ans, les activités que je menais, en tout cas, je me retrouvais, c'est pourquoi je suis venu à Koumfao pour voir mes parents aussi et puis leur partager le savoir que je suis parti à Zopé que j'ai eu.
Qu'est-ce que vous faisiez à Zopé?
À Zopé, j'étais dans la communication aussi. Voilà.
Qui vous a donné cette idée de vous lancer dans le secteur de la communication?
Bon, en fait, j'ai aimé la communication.
Alors, donc, vous vous retrouvez donc à Zopé. pour vous chercher, comme on le dit communément, pour essayer de trouver un sens à votre vie. Ce temps que vous passez là-bas, vous apprenez ce métier de commercial, vous vendez des accessoires. À quel moment vous jugez-il de revenir à Koun-Fao? Parce que vous êtes venu à Koun-Fao et vous en avez fait un lieu où vous êtes installé.
En fait, d'Azopé, j'ai vu que mes parents de Koun-Fao, il y avait le réseau ici, mais il n'y avait pas les ventes de téléphones et accessoires. Donc, j'ai jugé bon de venir aider mes parents en les vendant les téléphones et les accessoires des téléphones.
Vous avez fait ça pendant combien de temps?
Pendant une dizaine d'années aussi. Et après ça, j'ai changé de branche aussi. Donc, maintenant, surtout aujourd'hui comme ça, je suis dans la communication des achats de produits.
Achats de produits. Alors, Kakaji, vous êtes un instable économique, hein, portable, ensuite vous achetez des produits. Pourquoi vous bougez autant?
Bon, un homme étant jeune, il faut bouger beaucoup pour que tu puisses prendre ta retraite. Mais il faut grouiller pour que tu puisses avoir quelque chose avant de prendre ta retraite. Étant ne pas être salarié, il faut grouiller quand tu es jeune.
Alors, justement, on va s'intéresser à un aspect de votre vie, la gestion même de ces entreprises-là. Aujourd'hui, on voit le magasin, il est fermé. Est-ce que c'est parce que Kakaji n'a pas su gérer ou bien à un moment, vous avez décidé de faire autre chose?
Oui, j'ai décidé de faire autre chose. Sinon, ce n'est pas parce que le magasin est fermé. Bon, il y a une autre personne qui est venue prendre. Voilà. Mais j'ai fait d'autres magasins aussi ailleurs. Mais pas la communication, mais pour les achats.
Vous avez diversifié en fait vos activités.
Voilà.
Justement, pour tous ceux qui vous écoutent, surtout les jeunes, quand on a un magasin, surtout d'abord dans la vente d'accessoires, de téléphones et des téléphones eux-mêmes, comment on gère ça? Deux fois, c'est beaucoup d'argent hein, pour investir. Comment on réussit à gérer pour pouvoir tenir pendant 10 ans et puis faire autre chose?
Bon, c'est la gérance parce que chaque fois, il ne faut pas tenir compte de... Parce que tu as de l'argent en espèces, chaque fois, il faut faire des inventaires. Chaque fois, il faut faire des inventaires pour pouvoir voir, c'est-à-dire l'avancement des travaux sur tout ça.
Mais vous avez appris ça, ces inventaires-là. Vous avez appris ça à l'école. Vous dites, vous êtes arrivé en cinquième. Mais comment vous savez qu'à un certain moment, il faut s'arrêter, faire le point, vendre. Et puis, vous n'étiez pas seul. Hein, pour ce qu'on a vu, vous bougiez beaucoup aussi. Comment on gère tout ça?
Bon, étant élève même, je faisais le commerce. Étant élève à classe de CE2, CM1, déjà, il faisait le commerce. Donc, ce qui veut dire que c'est dans cette perspective que j'ai appris comment il faut gérer. Et puis, chaque fois, il faut voir s'il y a un rendement ou bien comme ça. C'est par ça que j'ai su.
Alors, sûrement ceux qui vous écoutent sont un peu partout sur le territoire national. Hein. La tendance de plus en plus des jeunes, je vais aller dans une grande ville, notamment à Abidjan, pourquoi vous étiez à Zopé? Ça ne vous a pas intéressé d'aller à Abidjan vous installer? Pourquoi vous avez décidé de revenir? Vous l'avez expliqué, hein, c'était pour aider vos parents. Mais est-ce qu'en étant à Koun-Fao, on peut s'en sortir quand on fait du business?
Oui, on peut s'en sortir, très bien même. Mais étant près de mes parents, j'ai pu faire mes plantations aussi. Donc j'ai un peu de champ de veillard dans la cadre route. Voilà, donc c'est-à-dire, étant proche, je peux au moins une fois dans la semaine aller visiter. Parce que au moment où j'étais à Zopé, j'avais fait 2 hectares de champs de coco. Mais après 2 ans, je suis venu trouver qu'il n'y a rien. C'est tout ça là même qui m'a poussé à venir au village. C'est-à-dire, quand tu vas investir, là au moins tu vois ce que tu as investi.
Il faut être proche de ces investissements.
C'est ça.
Alors aujourd'hui, vous voulez qu'on retienne quoi de vous, Kakaji?
Bon, pour le moment où je suis, je ne regrette pas, mais je continue. Parce que je ne suis pas encore à la retraite, parce que je n'ai pas plus que 60 ans ou bien 70 ans pour dire que non, je vais arrêter. Donc je continue toujours.
Alors justement, dans ce...
Je ne regrette pas aussi.
Oui, vous ne regrettez pas. Hein. Mais est-ce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui vous allez vous arrêter là ou bien vous avez des projets encore dans la tête?
J'ai beaucoup de projets.
Lesquels par exemple?
Bon, j'ai un projet de ferme et autres.
Alors justement, il suffit d'avoir l'idée, mais par rapport à ces projets-là, qu'est-ce que vous faites pour que ça soit une réalité? On sait que vous êtes un gagneur, hein? Vous avez commencé par la vente des portables, ensuite vous avez vos champs, vous êtes dans l'achat de produits agricoles, vous voulez faire donc l'élevage. Vous vous organisez comment pour pouvoir suivre tout ça?
Je prends un temps pour pouvoir m'organiser. Bon, par rapport à la ferme, actuellement, je suis en train de préparer le terrain.
Donc, c'est une phase, je peux dire, déjà concrète. Hein?
Pas tout à fait concrète, mais je ne suis pas loin. Voilà, parce que dans mes plantations, moi-même, je prévois tout. Donc, quand je fais mes plantations, il y a des coins, je ne plante pas. Et quand les gens me demandent, je dis non, ça, c'est préservé pour quelque chose.
C'est le moment qui est arrivé.
C'est le moment qui est arrivé.
Alors, justement, si on vous demandait de donner un conseil à tous ceux qui vous écoutent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Étant jeune, on ne se décourage jamais. Il faut avoir l'espoir. Et il faut connaître ce que tu veux faire aussi.
Kakaji, merci.
Merci, monsieur.
Alors, à mes auditeurs, au revoir et merci de votre fidélité.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.